Alors, il y avait, voilà, monsieur qui avait levé la main, peut-être ton micro.
Ben, j'ai, ça,
voilà, il y a une question là et puis d'autres questions. Alors, peut-être monsieur, voilà. Et puis...
Oui, bonjour, je souhaitais un petit peu intervenir par rapport à la notion de travailleur-père. Et puis, pour simplement signaler que l'année passée, la DGSS a lancé à l'échelon national un appel à projet pour justement, auprès du secteur AHI, pour justement intégrer dans les équipes de structure des travailleurs pairs. Alors, cet appel à projet sur Paris, la Fondation Armée du Salut a été retenu. Actuellement, nous avons 8 travailleurs pairs qui interviennent dans le secteur AHI, soit en CHU, en centre d'hébergement d'urgence, soit en stabilisation, soit en CHRS. Quant au statut des travailleurs pairs, effectivement, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de référentiel métier, comme on disait tout à l'heure. Peut-être que Marcel Gégère pourrait expliquer un petit peu comment lui voit l'évolution de cette profession de travailleur pair. La Fondation Armée du Salut, quant à elle, a laissé la possibilité, a laissé à Patrick Brunto, qui est sociologue, qui va évaluer cette période expérimentale, a laissé le soin à Patrick Brunto de donner, à la fin de cette expérimentation, un statut un petit peu concret à la profession de travailleur pair. Une autre approche, c'est là, à partir de la notion de pair aidance, quelle incidence peut avoir la pair aidance en termes d'accompagnement social et médico-social. Récemment, moi, j'intervenais sur un CHRS qui est géré par la Fondation Armée du Salut dans le 13e, qui est la cité de refuge, où effectivement l'équipe éducative et le directeur d'établissement, bien que ce soit la fondation qui a été retenue comme porteur de projet au niveau de l'intégration de travailleurs pairs, ça a été une levée de bouclier de la part de l'équipe éducative et du chef d'établissement. Il a fallu expliquer un petit peu, notamment en termes, hein, tout à l'heure on parlait du secret, de l'approche éthique du rôle de travailleur pair. J'expliquais simplement aussi à l'équipe éducative qu'un travailleur pair, c'est aussi un salarié. Et qu'en tant que tel, il est astreint au secret professionnel. Et il est astreint aux mêmes règles que le travailleur social qui va faire l'accompagnement social, que la CSTF qui va faire l'accompagnement vers l'autonomie économique, etc. etc.
Je pense qu'on va reprendre cette question des médiateurs de santé pair cet après-midi et on aura effectivement un témoignage.
Peut-être aussi pour revenir sur un autre domaine qui était la notion d'étude. Au-delà de l'évaluation de la Unity First, il y a de l'antériorité. Moi, je profite de la présence de l'équipe de Toulouse qui a coordonné au niveau de Toulouse cette action à Housing First pour leur poser une question. En 2008, me semble-t-il, deux associations toulousaines, à la demande de leur SMIP, ont mené une recherche-action qui s'intitulait SDF, créateur d'habitat. Quel a été le lien, si toutefois il y en a eu un, entre l'évaluation toulousaine et cette action qui a été menée en 2008 de SDF créateur d'habitat, notamment en termes d'application des usagers à la notion de travailleur pair.
Ok, on va garder cette question, peut-être Amandine pourra en dire deux mots, peut-être on prend peut-être deux, trois questions, puis après on va faire les réponses. Il y avait une question ici.
Laurent Gozzi, élu Santé publique et territoire. J'ai trois réflexions, questions. La première, c'est finalement dans l'évaluation, est-ce qu'on peut faire la part entre ce qui est dû au logement précoce en tant que tel et ce qui est lié à l'accompagnement spécifique, donc au programme lui-même. Et si on considère que finalement, en dehors du programme, les gens s'améliorent quasiment autant, ça pose quand même question. Deuxième remarque que tu as évoquée, Pauline, le statut entre exclusivité, subsidiarité, complémentarité du programme avec le droit commun ou le système normal. Comment les équipes se positionnent et surtout, comment entre réplication et dissémination, cette question exclusivité, subsidiarité, complémentarité peut être posée. Puis tu poses une autre question qui est la question de l'usager légitime, de l'animation du dispositif. Comment les CLSM, les conseils locaux en santé mentale, dont le développement est inscrit dans la loi, dans la circulaire commune DGS, CGET, etc., enfin, qui a un dispositif qui doit se développer, qui implique les collectivités, les bailleurs et évidemment le secteur de psychiatrie et avant tout les usagers, comment le CLSM peut être sur les territoires le pilote, surtout si on est dans un cadre plus de dissémination que de réplication. Merci. En tout cas, bravo, bravo pour le programme et pour la présentation.
Peut-être une autre question avant qu'il y ait les réponses de madame.
Oui, je ne sais pas si vous pourrez répondre à la question. La question que je me pose, c'est les personnes, les locataires, comment on fait une étude comparative, donc ceux qui sont logés et ceux qui sont dans le processus habituel, est-ce que les personnes, qu'elles soient dans l'un ou l'autre des bras, ont envie d'avoir un appartement? Est-ce qu'avoir un appartement, pour eux, c'est dans le haut de leur priorité?
Ok, je vous propose donc qu'on passe aux réponses et après on clorera cette séquence de questions. Voilà. Donc je Pauline, si je crois qu'il y a Pascal aussi okay, qui souhaiterait...
Oui, parce que je pense qu'il y a une question qui est plus pour...
Voilà.
Alors, par où je vais commencer est-ce qu'ils veulent un appartement? En fait, c'était une condition pour rentrer dans l'étude, donc la question c'est... en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui ne veulent pas d'appartement, concrètement. Ça arrive, hein, mais c'est assez rare. Donc, du coup, c'est l'inclusion dans le protocole de recherche que l'on tombe, entre guillemets, dans le bras témoin ou dans le bras expérimental, il y avait comme condition déjà de s'engager à rester dans les 24 mois dans le territoire, en tout cas même un peu élargi. Et effectivement, les gens ne sont pas rentrés puisqu'ils tentaient le coup en rentrant dans l'étude s'ils ne voulaient pas d'appartement, concrètement. Après, il est arrivé que les gens quittent l'appartement ou changent d'appartement. Donc, voilà, si je peux répondre à cette question. La deuxième question à laquelle je peux répondre, mais je pense qu'après, Pascal pourra prendre la parole. Est-ce que les CLSM, les conseils locaux de santé mentale, peuvent être un dispositif qui fournit des représentants pour ce type de programme? Alors oui et non, c'est-à-dire que je pense que les conseils locaux de santé mentale se heurtent au même type de questions que le programme Un chez soi d'abord, pour arriver à avoir des représentants d'usagers pérennes, et qui soient vraiment des représentants d'usagers et pas forcément des représentants des proches d'usagers. Et donc, il y a le même type de questions qui se posent, puisqu'il y a beaucoup de conseils locaux de santé mentale qui ont essayé de faire participer des représentants d'usagers dans leurs conseils et qui, du coup, ont cherché déjà les représentants disponibles sur leur territoire. Donc, quand c'était des personnes qui... par exemple, était responsable d'un groupe d'entraide mutuelle qui n'a pas du tout vocation à représenter les usagers, ça posait quand même problème. Et après, le deuxième souci, c'est que c'est usager de quoi ? Si c'est représentant d'usagers sur le territoire des usagers des services de psychiatrie ou de personnes usagères des services d'urgence et d'hébergement, ils connaissent pas forcément le contenu du programme et c'est pas forcément la même population que les usagers du dispositif hein, chez soi d'abord lui-même. Donc c'est une question qui... Je pense moi qu'il faut deux niveaux en fait pour qu'on puisse assurer une instance participative. Après, oui, les CLSM, par exemple, il y a peu de dans les sites, ça s'est très peu connecté aux conseils locaux de santé mentale en fait. Hein. Même dans l'expérimentation, il n'y a pas eu de connexion. Voilà. Concrète, hein. Ça dépendait aussi de la position de la municipalité et la présence aussi d'un conseil local qui était par exemple à Lille, je connais bien l'exemple de Lille, il y a un conseil local de santé mentale, bon, la municipalité était contre le programme, donc on n'a jamais vu personne du conseil local de santé mentale. Donc non mais voilà, il y a tout un jeu d'acteurs qui fait que c'est plus ou moins facile de les convier.
Ouais.
Mais dans le cadre de l'extension, de toute façon, je pense que ceux qui pilotent le dispositif vont chercher localement, ils vont faire feu de tout bois. C'est-à-dire que, de toute façon, on part un peu de rien. Hein. C'est-à-dire que, globalement, la participation des usagers, et ça ne vaut pas que pour la santé mentale, elle marche pas bien en France. Ça marche, il y a plein de conseils de vie sociale qui marchent mal, il y a plein de comités des usagers dans les hôpitaux qui marchent mal, et ce n'est pas spécifique à la santé mentale. Troisième question, comment on règle la question de la complémentarité? Je pense qu'il faut énormément travailler en amont. Il faut que les partenaires locaux travaillent en amont sur comment les équipes vont travailler avec leurs partenaires. Il y a tout un travail que les équipes n'ont pas pu faire en amont du programme, puisque le protocole était déjà déterminé par la recherche, qu'on était pressé par le temps. Et donc, il y a eu tout un travail de communication et de pas de pédagogie, parce que je trouve que c'est toujours un peu insultant de dire qu'il fallait faire plus de pédagogie. Non, il faut se mettre d'accord en amont sur une façon de fonctionner qui ne soit pas contradictoire avec le modèle, c'est-à-dire qui permette qu'il y ait des moments, des temps exclusifs de suivi et des temps complémentaires de suivi. C'est ce qui s'est passé dans la réalité. Hein. Il y a eu plein de réunions de synthèse qui ont lieu d'ailleurs classiquement en offre habituelle entre plusieurs services au sujet de monsieur un tel. La différence peut-être, c'est que les équipes ont beaucoup œuvré à ce que dans les réunions de synthèse, en fait, il y ait l'usager concerné. Et ça, c'est peut-être la nouveauté. C'est-à-dire que c'était compliqué pour les équipes de se dire on va aller se réunir avec le secteur de psychiatrie un tel ou l'organisme de tutelle sans qu'il y ait la personne concernée. Donc c'est là aussi où culturellement, ça peut devenir compliqué. Je ne sais plus quelle est l'autre question. La part du logement et de l'accompagnement, c'est une question pour Pascal. Ouais. D'ailleurs, qui va répondre tout de suite. Et après,
merci beaucoup, Pauline. Peut-être on laisse la parole à Pascal pour cette question.
C'est la question sur la part du logement et la part de l'effet de l'accès au logement et de l'effet de l'accès au programme de rétablissement. Et vous posez la question légitime de dire finalement, si les deux programmes aboutissent à des niveaux qui sont à peu près identiques, je m'interroge légitimement. Bon, premièrement, elle est. En pratique, c'est moi qui crée de la confusion en voulant être trop honnête et en forcissant le trait sur les choses. La deuxième chose, l'accès au logement, ce n'est pas un traitement. C'est là où est l'accès au logement, ce n'est pas le traitement, c'est le catalyseur du traitement. Ce qui est le traitement dans le programme, c'est le rétablissement. Penser que le rétablissement, qu'un programme de rétablissement est une efficacité à un horizon temporel de 18-24 mois, c'est un contresens. C'est un contresens, c'est une méconnaissance de la pathologie psychiatrique sévère. L'histoire naturelle de rétablissement d'une schizophrénie, ce n'est pas 24 mois. C'est au mieux 48, voire 5 ans. Donc, en pratique, il était peu probable d'avoir des résultats positifs à cet horizon temporel-là. Donc, pour répondre à cette question, ce qui n'a pas été abordé dans la présentation, la population qui a participé, ou les patients qui ont participé à l'étude à l'horizon de 24 mois, en fait, ont été maintenus dans l'étude pour pouvoir récupérer de l'information à 48 mois, ce qui vient de se finir là maintenant. Et j'ai bon espoir de montrer effectivement que l'organisation d'un programme structuré, effectivement, a un impact qui est positif, a un horizon temporel qui est plus cohérent par rapport à l'histoire naturelle de la pathologie. Voilà.
D'accord.